attitude à avoir quand les choses vont mal. J'ai nommé le titre du message « En territoire contesté » parce que je pense que nous sommes actuellement en territoire contesté. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'entends, c'est que être un chrétien aujourd'hui, c'est pas facile. Peut-être pour d'autres chrétiens dans d'autres pays, c'est plus facile. Peut-être pour d'autres chrétiens dans d'autres pays, c'est beaucoup plus difficile. Hein. On pense à nos frères en Corée du Nord, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, et pourtant qui perdent leur vie à ce niveau-là. Si l'État savent qu'ils sont chrétiens, ils sont tués, hein, ou emmenés dans des espèces de camps de concentration. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que pour nous chrétiens aujourd'hui, tu dois savoir que tu es dans une bataille. Et que du résultat de cette bataille, il va y avoir des conséquences pour les gens autour de toi. Il faut que tu te rendes compte que la version de toi avec Jésus, elle fait peur à l'ennemi. Donc il va sortir toutes les armes possibles et imaginables pour pouvoir te détruire. Je voudrais bien qu'on regarde un petit film ensemble. Parce que moi j'aime bien regarder les films. C'est pas un film, c'est un documentaire. Alors je vais juste demander si on peut éteindre les lampes, parfait. Alors, je vous donne un petit peu de contexte, je dirai quand on doit arrêter la vidéo. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Voilà deux hommes qui ont une relation avec Jésus, qui ne veulent pas d'étiquette chrétien, protestant, machin. Ils sont juste chrétiens, voilà, ok? Pas de religion, on est juste chrétien. On va aller parler aux gens de Jésus, on va parler aux gens du Saint-Esprit, et on va prier pour que le Saint-Esprit les touche. Voilà qu'est-ce qu'ils font dans la rue. Ils sont dans une ville ici aux États-Unis qui s'appelle Salt Lake City. Alors je ne sais pas si certains la connaissent, c'est la capitale du mormonisme. Ok, le mormonisme c'est une secte qui conteste la divinité de Jésus. Et par exemple ils pensaient que Jésus est le frère du diable. C'est un petit peu compliqué d'expliquer ça, mais en tout cas ils remettent en cause la divinité de Jésus. Donc c'est une secte qui est issu du christianisme. Voilà, je vous laisse regarder ça et je vous demande d'observer qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu touche les gens. On va voir des gens qui sont touchés. C'est pas de la blague, hein, c'est arrivé en vrai. C'est qu'est-ce qui se passe quand les gens sont touchés par Dieu. Ok.
We just got off the plane and headed towards the tabernacle. One of the first people we met was a 21-year-old kid who admitted that he'd been haunted by dark spirits ever since he and his friends slept in a graveyard.
According to us, we agree that we each other over, and now we're haunted. Just because we slept in a cemetery, and now we're in different continents, and we're all experiencing stuff on a day-to-day basis. How would you like that to leave you and never come back? In a way, it would be sick, because she hates the fact that I have stuff that follows me around the house. And
I could do that for you.
Could you?
Yes.
How so?
I was a kid that had night terrors so bad I had to be hospitalized.
Damn, son.
Yeah. And then I came to Jesus. He freed me, and he gave me this special power to help other people be free. So I could take that away.
What religion?
Just Christian. No religion, just Christian.
Yep. Christian in the Mormon state, huh?
Ironic. Okay, put your hand out, watch. Holy Spirit, I want you to touch my friend. Show him you're really real and break him free from all the haunting spirits that have been assigned to his life. You feel that? Watch. Double it. Double it.
Yeah.
Holy Ghost, I ask you to send your power all the way up his arm as a sign of your love. Thanks, Jesus. Feel that?
Oh, my armpit's cold all of a sudden.
Yeah, watch. Double it. Double it. More. Now, Lord, show him it's not my power, but it's your power. From the top of his head down the soles of his feet, let that power go through his body right now. You feel that?
That's weird, man. I don't know what to tell you right now.
Isn't that crazy?
That's so weird.
Now watch. Put your drink down. Put your drink down. Put your other hand out. Watch. Because this is a moment. This is a moment that...
I feel like we're about to play that game.
No. Watch. Double it, Lord. More. That stuff is going to come off your life. It's the power of the Holy Spirit. More, Lord. You feel that?
That is weird, dude.
Isn't that crazy? Now I'm going to put my finger in the middle of your palm, and power is going to go through your body. It's not my power. Lord, show them that it's not my power. It's not my magic. It's the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Thanks, Lord. What do you think about that?
I don't know what to tell you right now, dude. I feel weird.
Yeah, watch. Double it so much you can barely stand up.
My nipples got hard.
These things happen. These things happen. Watch. More, Lord. More.
Why are your hands so warm, dude? That's weird.
Isn't that crazy?
That is weird, dude. Give me that.
It's getting more intense on you. Isn't that crazy?
My arms. It's all the way up. Yeah.
Yeah.
I don't know what to tell you right now.
Yeah.
It's weird.
I believe Jesus is, he's wooing you, dude. He's like, he loves you, man.
I believe that.
Yeah.
Now I know what you're thinking. This is just a parlor trick. That
voilà, voici un petit extrait du film Saint-Esprit qui est sorti il y a quelques mois. On l'a regardé avec les jeunes et c'était vraiment... C'est vraiment un très très bon film. Ça montre un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on demande au Saint-Esprit de toucher les gens. Mais des gens qui ne le connaissent pas. Le réalisateur du film insiste sur le fait qu'il ne veut pas réduire le Saint-Esprit à une excentricité, à un tour comme ça dans la rue. Mais lorsqu'on rencontre Jésus sincèrement, il y a des choses qui changent. Il y a des choses fortes qui changent. Dans cette vidéo, dans ce reportage, pardon, il y a le témoignage de plusieurs membres d'un groupe de métal qui s'appelle Korn, qui était un groupe de métal assez connu dans le monde du rock, et le guitariste et le bassiste ont rencontré Jésus de façon assez puissante. Et la chose qui est le plus choquant, c'est l'arrêt total et complet de drogue, alcool, sexe à profusion, tout souvenir. Quand on rencontre Jésus, il y a un changement qui se passe. Dans le cadre du travail avec des jeunes depuis il y a quelques semaines, j'ai pu organiser un camp avec des églises de la région du Hainaut. On a réuni 60 jeunes dans un endroit assez beau qui s'appelle Botassar, c'est dans la vallée de la Semois. Les jeunes ont eu un prédicateur de qualité, je pense, et moi j'étais vraiment témoin d'une rencontre de l'esprit dans la vie de ces jeunes. Le thème c'était sur l'identité en Christ, et j'ai vraiment vu Dieu faire un travail profond dans la vie des jeunes, avec parfois des circonstances difficiles. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et après le camp, je voyais un des participants, lors d'une réunion, et il me partagea que le retour à ce qu'il appelle la réalité, c'était pas facile. Dieu avait fait des choses dans sa vie, Dieu avait déposé des choses dans sa vie, et c'était vraiment difficile après ça. Et je tiens à dire que, pour moi aussi, des circonstances difficiles à mon travail avec Espoir Wallonie furent difficiles, et je savais pertinemment ce qui se passait. Je savais, ça arrivait tellement de fois. Il y avait ce qu'on appelle une attaque de l'ennemi, une oppression spirituelle, on peut mettre le mot qu'on veut sur ce, mais il y a quelque chose, quelque part, qui n'aime pas ce que Dieu a fait et veut le détruire. Est-ce que vous croyez que c'est possible ça? Quelque chose, quelque part, il n'est pas content de ce que tu peux recevoir de Dieu. Alors, je tiens à vous dire quelque chose, moi je ne suis pas quelqu'un qui spiritualise beaucoup. Et pourtant, ici je suis en train de spiritualiser les problèmes de ma vie, mais totalement. Ce que je veux dire, c'est que... Ton influence, elle peut changer le monde. Toi, avec Jésus, ça peut changer le monde. Donc évidemment que s'il y a un ennemi, il va faire tout ce qu'il peut pour t'écraser. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes en territoire contesté. Paul, l'apôtre Paul, nous enseigne dans Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 17, je vais le lire. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle, de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je sais que quand on lit ce passage, on veut toujours parler de l'armure. Et alors que j'avais prêché de ce passage il y a quelques semaines, j'avais eu la conviction, bon allez, on va changer, on va pas prêcher de l'armure, on va pas parler de l'armure de Dieu, on va parler de tout le reste, mais pas de l'armure de Dieu. Et c'était, j'avais bien fait parce que le prédicateur la semaine juste avant avait pris le même passage, j'avais prêché sur l'armure de Dieu. Alors j'ai entendu le prédicateur la semaine passée, il n'a pas prêché sur l'armure de Dieu, mais pour nous rafraîchir, je vais quand même m'éloigner de ceci. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais bien un peu remettre les choses en place pour nos têtes. Il n'est pas toujours facile de voir qu'est-ce qui est spirituellement des attaques ou spirituellement juste les circonstances de notre vie. Il y a des choses dont tu as besoin pour pouvoir prendre des décisions normalement. Tu as besoin d'être logé, tu as besoin d'être nourri, tu as besoin d'être sécurisé au niveau de tes finances. Si ces choses-là ne sont pas réunies, il est parfois difficile de faire le tri. Moi, quand j'ai des gens qui veulent servir le Seigneur, c'est toujours bien d'avoir une position stable de laquelle tu peux servir Dieu. Parce que si ta position n'est pas stable, eh bien, tu vas peut-être manquer d'argent. Est-ce que c'est Dieu qui ne pourvoit pas? Est-ce que c'est l'ennemi qui t'attaque? C'est pas toujours facile de faire ça, de faire le tri. Mais moi, je pense que à partir du moment où Dieu il a pourvu à tes besoins de base, que j'appelle de base, c'est-à-dire de la nourriture devant toi, un toit au-dessus de ta tête, une mutuelle pour la sécurité sociale pour pouvoir se soigner, toutes ces choses-là, quand elles sont en place, qu'on a cette base de voir, ok, Dieu a pourvu pour moi, maintenant je peux commencer à agir. Je sais pas ta situation, et j'ai ça sur le cœur, je sens que si tu ne sais pas où t'en es pour le moment, observe, est-ce que ta situation de base, elle est correcte? Sinon, mets-la en ordre avant d'essayer de prendre des grandes décisions. Il y avait un prédicateur, un pasteur, et également quelqu'un qui fait des formations sur le leadership, qui disait aux gens, ne prends jamais de grandes décisions en temps de crise. Ne prends jamais de grandes décisions en temps de crise. Pourquoi est-ce qu'il voulait dire ça? C'est parce qu'en temps de crise, notre réalité, elle est faussée. C'est important, ça. Je reviens au message. La Wallonie, c'est une terre qui est hostile à l'évangile et à ceux qui y appartiennent. C'est pas que les gens sont particulièrement méchants. Attention, hein. C'est pas que les gens sont contre nous, hein. Mais nous sommes dans un conflit pour l'âme des gens. C'est pas bizarre, hein. Cela ne nous prend pas par surprise, car Jésus nous avait bien avertis et Paul nous le rappelle. L'ennemi a été vaincu par notre glorieux sauveur et pour un temps encore, Dieu laisse le champ de la terre porter ses fruits. Dans Matthieu 13, tout le chapitre, Jésus parle du royaume de Dieu. Et il explique pourquoi est-ce que il a laissé encore un temps à l'ennemi il tolère son existence, en fait. Il dit à ses anges, non, on va pas arracher encore le champ. Si on arrache le champ, ben, tout va être détruit, on va attendre. Et à la fin, on passera. Il y a un autre verset dans Matthieu 13, qui parle de l'évangile comme un arbre qui pousse. Il parle d'une graine de poivrier qui est toute petite, minuscule en fait, hein. C'est vraiment petit. Et quand elle pousse, ça devient un arbre qui dépasse toutes les autres plantes du potager. Et les oiseaux du ciel viennent faire son nid dedans. C'est ça l'évangile. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Tu es appelé à devenir cet arbre qui peut abriter les oiseaux du ciel. Enfin, c'est une image, c'est pas littéral. C'est pour dire que de ta vie, il y a des choses qui peuvent venir s'abriter. C'est pas le rôle principal de l'arbre d'abriter les oiseaux. Hein. Le rôle principal de l'arbre, c'est de nourrir sa sève, hein, de prendre les feuilles, viennent nourrir le tronc à travers la sève. Alors moi, je veux demander à chacun de pouvoir faire un petit bilan, de se dire, ok, je regarde ces dernières années-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'aurais laissé à l'ennemi la possibilité de me manipuler? Est-ce que j'aurais cédé à l'ennemi la possibilité de déranger un petit peu ce que Dieu veut faire avec moi? Le désir de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux et saint. Ça, c'est le désir de Jésus pour toi. Si t'es pas heureux, que t'es pas saint, on est déjà saint en Christ. Amen. Amen. Comme la sainteté nous l'a rencontré. Et heureux, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire épanoui. Ça veut dire qu'il y a, c'est pas qu'il y a plus de souffrance. Ou qu'on n'a plus de problème. Ça veut juste dire que on peut s'appuyer sur Dieu quand ces souffrances elles arrivent. On peut se développer, on peut grandir. La souffrance n'est pas toujours une mauvaise chose. Ça peut te sembler bizarre, mais donc la puissance de l'évangile qui habite en toi, tu peux avoir une influence tellement forte sur le monde qu'il s'en retrouve transformé. Si tu es donc découragé ou sans force, tu perds de ton influence et l'ennemi peut continuer son œuvre. Moi, je te le dis aujourd'hui, j'espère que tu t'en souviendras toute ta vie, la version de toi avec Jésus fait peur à l'ennemi. Pour en revenir au camp de jeûne que j'ai fait et les circonstances qui se déchaînaient un peu après cela, une pensée du Saint-Esprit est venue sur mon cœur et je voudrais bien la partager avec vous. Lorsque les circonstances se déchaînent autour de nous, et peu importe sur quelle façon, dans nos relations, dans nos familles, dans notre travail, dans nos finances, on a envie de réagir. On a envie de se battre. C'est pas normal. C'est pas juste. On veut dire que ça, c'est pas juste, ça devrait pas se passer comme ça. Et dans certains points de vue, c'est très vrai, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais notre réponse à développer, que je voudrais vous exposer ce matin, est un petit peu différente. On doit prendre l'habitude de se reposer en Dieu. En territoire contesté, en champ de bataille, il faut se reposer en Dieu. Ça peut sembler aller contre notre intuition de se reposer en temps de bataille, mais nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous pouvons voir cela comme une maison construite sur le roc et non sur le sable. Le vent souffle, mais tu tiens bon. Les vagues se déchaînent, mais tu tiens bon. Amen. J'aimerais bien illustrer ça à travers 3 points courts pour nous ce matin. 3 façons de se reposer en Dieu. La première, il faut se reposer en Dieu en passant du temps avec lui. De l'espoir. Ephésiens 6:10 dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Apparemment, Paul l'apôtre nous dit que dans le Seigneur, il y a une puissance qu'on peut aller puiser. On peut aller à la source. Et il peut déverser quelque chose en nous qui nous fortifie. Au Romains chapitre 12, du verset 1 à 5, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, car nous n'avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Paul nous expose ici le fait que nous devons renouveler notre intelligence par rapport au monde. Et il rappelle également aux chrétiens de se revêtir d'humilité. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des chrétiens qui sont haut placés, mais ce que j'ai trouvé toujours comme caractéristique des gens qui ont une relation avec Dieu, une relation sincère, c'est leur humilité. Je connais par exemple un homme qui est le chef financier de Mars. C'est une compagnie que vous connaissez bien, elle fait les barres de chocolat, mais elle possède également Uncle Ben's, sous des grandes marques comme ça de nourriture. Je pense que si je ne me trompe pas, ils ont un revenu supérieur au PIB du Kenya. C'est quand même énorme. Cet homme est un docteur en économie. Il aurait pu recevoir des prix Nobel qu'il a gentiment refusé. Et toujours ce qui m'a choqué, il s'appelle Bruno, il est au Christian Center, toujours ce qui m'a choqué chez cet homme, c'est son humilité. À jamais un moment il oserait parler contre Dieu, et pourtant je vous promets, les circonstances qui se déchaînent autour de lui, parfois c'est assez impressionnant. Cet homme a le désir, à travers la parole de Dieu, il a reçu un nouveau système économique. Il voudrait bien implanter une nouvelle façon de voir l'économie. Que la richesse ne soit pas juste calculée sur le numéro qu'il y a sur ton compte en banque, mais également sur la qualité du niveau de vie des gens qui travaillent pour l'entreprise. Ou comment est-ce que on pense, si on va chercher un arbre à gauche, est-ce qu'on le replante à droite? Toutes ces choses-là, il veut réévaluer un peu la façon dont on fait la richesse. Alors évidemment, croyez-moi, il a des réactions de certains banquiers ou certaines personnes dans l'économie mondiale qui sont vraiment, vraiment virulentes. On doit avoir de la discipline pour passer du temps avec Dieu. Cet homme, il se garde humble parce qu'il passe du temps avec Dieu. Cela est bon pour nous, c'est pas toujours facile, mais passer du temps dans la parole, dans la présence du Père, on est exhorté à voir notre intelligence renouvelée. Il est évident que nous sommes dans le monde et nous sommes exposés à être influencés par les visions du monde qui sont parfois contraires à ce que Dieu pense. Prends la voix dans ta tête qui te dit que t'es pas assez saint ou que t'as pas ta place ici ou que t'es accusé ou qu'on t'aime pas. Tout ça, c'est des mensonges. La parole dit que tu es aimé, la parole dit que tu es digne, la parole dit que tu es accepté. Alors qui viendrait te dire que tu ne l'es pas? Si Dieu l'a dit, hein? Ce que Dieu dit est souverain. La voix dans ta tête qui était marquée par les tempêtes et par les blessures, celle-ci, On a tous subi parfois des choses dans l'église qui nous ont découragés. Et ça, je le rencontre tellement de fois. Parfois, la blessure est tellement de force qu'elle redéfinit la façon dont on voit le monde. Oh, je veux bien faire ceci, mais ça va jamais marcher. Ah, non, ça marche pas, ça. On rencontre parfois des chrétiens et leur vie a été formatée par les échecs. Oh là là. Parfois, faut leur rappeler qu'ils ont été baptisés à l'eau, pas au vinaigre. Est-ce que le pasteur confie? Je m'emporte. C'est du lieu secret de toi avec Dieu que tu trouveras la force pour renouveler ton intelligence. Et également que Dieu pourra te transformer sans que tu le saches. Il te met des gens à cœur, des situations que tu peux porter dans la prière. Alors moi, je tiens à mettre quelque chose au clair. Il y a souvent deux schémas qu'on rencontre dans les églises. Il y a le schéma des gens qui ont rencontré Jésus au cours de leur vie, et qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, qui ont rencontré Jésus au cours de leur vie, et ça a été comme une bombe qui leur sautait dessus, bam, cette bombe d'amour, hein. Et c'est quelque chose de magnifique à voir. Dans la vidéo dont je vous parlais, on a des gens qui étaient drogués, méthamphétamine, alcoolisme, j'en passe des meilleures, des moins bonnes, pardon. Et ce qui se passe quand Jésus touche leur vie, c'est que toutes ces choses-là, poubelle. Alors il y en a un, ça s'est passé en un jour, il y en a un autre, c'est en une semaine. Il dit, je comprenais pas. J'allais dormir sans marijuana, sans alcool, sans pilule. Et j'en avais plus besoin. Ça, c'est un changement qui est énorme. C'est un feu d'artifice dans la vie des gens. Moi, par contre, ça, c'est pas du tout mon histoire. Moi, je suis pas nécessairement tombé spécialement dans la drogue ou mener une vie de bâton de chaise, comme ma mère dirait. Mais non, je n'ai pas fait ça. Moi, je suis né dans une famille chrétienne et j'ai même pas péché tellement que ça. Ah, mais même pas, quoi. Un petit peu fade, quoi, je veux dire. Voilà, bon, on peut voir qu'il y avait un petit peu de fierté, malheureusement. Mais Dieu travaille dessus, Dieu travaille... Non, je rigole. C'est que moi, je veux dire, c'est que Dieu... Il m'a donné la bénédiction de naître dans une famille chrétienne. Et moi, je pense aujourd'hui que c'est une bénédiction, hein, quand je regarde en arrière. La chose qui s'est passée, c'est que j'ai pas ce grand moment avant-après dans ma vie. J'ai pas ce moment où j'étais à terre dans la rue, sans argent, et puis Dieu m'a relevé. J'ai pas ça. Et peut-être qu'il y en a certains qui l'ont pas non plus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ça prend autant de passion, d'énergie, de feu, de garder la flamme de Jésus en vie que de pour un drogué de sortir de l'alcool. Moi je dis toujours ça aux jeunes. L'évangile, quand on le rencontre sincèrement, c'est un feu d'artifice. Peut-être ça se voit super fort à l'extérieur, ou peut-être ça se passe juste à l'intérieur, mais c'est tout aussi fort. Et peut-être ce que tu vois chez les autres que tu penses que t'as pas, tu peux l'avoir. Ce qu'on voit, c'est ces gens qui ont eu des rencontres phénoménales avec Dieu, on peut l'avoir, même si on n'a pas eu une vie de bâton de chaise. Ça va? Et même Benjamin, le mec un peu fade, eh bien, Dieu l'a choisi. Dieu l'a appelé. Et Dieu, il veut t'appeler, il veut te choisir. La spécialité de Dieu, c'est d'appeler des gens qui ne le méritent pas. Amen. Amen. Tu penses que tu le mérites pas, quoi. C'est bien, ça fait plaisir. Dieu a besoin de toi. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait Dieu. Il va pas donner son amour et sa grâce à la personne qui pense qu'elle est autosuffisante, à la personne qui pense qu'elle est bien. Il va pas faire ça. Il va avoir la personne qui est cassée, qui a souffert. Il va aller à côté d'elle, il va dire, ah non. Moi, je déclare que tu es saint, que tu es juste, que tu vas y arriver, que ta vie va être reconstruite. J'ai un futur pour toi, des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu pour ta vie, ce matin. Bon. Une autre façon de se reposer en Dieu. Il faut se reposer en Dieu en ayant confiance en sa volonté souveraine. Dieu est souverain. Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Ça veut dire que peu importe ce que l'ennemi essaie de te faire, si toi, tu mets ta confiance en Dieu, c'est la volonté de Dieu, elle est infaillible et elle est destinée. Donc si toi tu dis, Seigneur, je mets ma confiance en toi, peut-être pendant 10 ans les circonstances se déchaînent autour de toi, mais à la fin, Dieu, il est dit, ça suffit. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je dis que Dieu est souverain, ça veut dire que la volonté de Dieu, l'ennemi, il ne peut pas venir argumenter avec cela. Si toi, tu mets ta confiance en Dieu, si tu dis, je ne sais pas comment, ou je ne sais pas pourquoi, mais Seigneur, moi j'ai envie d'essayer avec toi, allez, vas-y, change mes circonstances, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut donner la permission à Dieu d'être Dieu. Et alors là, regarde ce qui se passe. Je trouve ça extraordinaire, moi, de voir ça. De voir des gens qui donnent juste la permission à Dieu. Seigneur, allez, fais ce que tu dis que tu vas faire. Et voilà, le Seigneur, il nous prend. C'est un peu ce qui se passe quand on se met devant Dieu chaque jour. On lui donne la possibilité d'être Dieu dans nos vies. C'est juste ça qu'on fait. C'est qu'on passer du temps une fois par jour avec Dieu. C'est pas juste pour... On est toujours en communion avec Dieu en tant que chrétien. C'est juste que quand on prend un temps à part, on lui donne la permission de déverser quelque chose en nous, de nous changer. Seigneur, je t'autorise à travailler en moi parce que il y a beaucoup à faire. Dieu a décidé la direction vers laquelle le monde va. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser démonter par les circonstances, mais avoir confiance en ce que Dieu a dit. Moi, j'aime beaucoup Jésus qui illustre cela dans Matthieu 4. Alors Jésus, c'est Matthieu 4 hein, que je lis. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable lui-même. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui et il lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi voulait que Jésus regarde aux circonstances. Allez, t'as faim là, hein, t'as soif, hein, c'est 40 jours. Hein. Faut que tu manges, ça va pas autour de toi, il faut que tu fasses quelque chose. Mange, fais quelque chose. Regarde autour de toi, il faut que tu fasses quelque chose, sinon tu vas mourir, Jésus. J'aime bien la réponse de Jésus. J'ai confiance en ce que Dieu m'a promis et sa volonté souveraine. Dieu dit, tu ne feras pas confiance. Tu ne te nourriras pas seulement de pain et de vin, mais de la présence de Dieu. Je trouve ça génial, moi. Le diable, après, continue, le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, le transporte Jésus, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors l'ennemi, il augmente, niveau 2. L'ennemi voulait que Jésus soit rempli d'amertume, et une attitude de colère envers Dieu. C'est pas seulement, fais quelque chose, ça va pas. C'est pas juste ce qui t'arrive. C'est pas juste, tu dois être en colère face à Dieu. Allez, rebelle-toi contre lui. C'est pas bien ce qui se passe là, c'est pas normal. Et là, il y a Jésus qui répond, j'ai confiance en ce que Dieu m'a promis et sa volonté souveraine. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. J'ai pas besoin de le tenter pour savoir qui m'aime. J'ai pas besoin de le tenter pour savoir ce qu'il pense de moi. Alors, je sais pas moi, ces versets-là, s'ils te parlent, ou est-ce que ça te porte dans ta vie. Mais moi, je veux t'encourager à faire quelque chose. Si l'ennemi, il a parlé ces choses-là dans ta vie, ne te laisse pas démonter. Renvoie-lui vers Dieu. Renvoie l'ennemi vers Dieu. Renvoie-le vers, ok, va faire une conversation avec le roi des rois par rapport à moi. Et regarde ce que lui dit. Ça va? Puis, entre-temps, tu me laisses tranquille. Le diable, ensuite, il continue, il transforme Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui, il dit, je te donnerai toutes choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La dernière tentation, l'ennemi fatigué de la résistance de Jésus, qui résiste. Voilà, les intentions de l'ennemi sont révélées. Ce que l'ennemi voulait de Jésus, c'est ce que l'ennemi a eu d'Adam et Ève. Jésus, remets-moi les clés de la terre, redonne-moi l'autorité que tu sais de me prendre. Prosterne-toi devant moi. Nous étions responsables de la terre. Nous avions été créés pour prendre soin de la terre, de nos vies. Dieu nous avait donné les clés. Et en succombant au péché, on a malheureusement remis ces clés-là à l'ennemi. Évidemment, le merveilleux plan de Dieu, c'était de pouvoir envoyer son Fils pour reprendre ces clés, pour qu'on soit plus dans la condamnation. Et l'ennemi, il voulait juste que Jésus lui remette à nouveau ces clés-là. Il voulait juste, allez, je te donne tout, mais tu me sers moi. Moi, moi, moi. L'ennemi, il veut toujours refuser la souveraineté de Dieu. Il hurle lorsque tu lui rappelles la souveraineté de Dieu dans ta vie. Moi, je t'encourage, rappelle à l'ennemi la souveraineté de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas abattre par la circonstance. En pratique, ça veut dire quoi? Parce que je parle, mais bon. En pratique, ça veut dire que lorsque nos vies, les circonstances dans nos vies ont l'air d'être en notre défaveur, on continue à faire ce que Dieu nous a confié. Il faut continuer à être parent avec des enfants. Il faut continuer à les traiter avec amour, même si les choses vont mal. Il faut continuer à être un papa, à être une maman. Il faut continuer à travailler pour les nourrir. On ne doit pas abandonner notre ministère ou notre fonction dans l'église quand les choses vont mal. Il faut rester solide. Je rappelle le pasteur Tony Santinaro, qui est un pasteur que j'ai rencontré, je travaille maintenant pour lui. Il a eu un cancer il y a 3-4 ans d'ici. Et il a été littéralement miraculeusement guéri. À l'hôpital où il va, il l'appelle le miraculé. Hein. C'est pas une blague. Il est passé 3-4 fois à côté de la mort. Et puis il y a un moment clé où il a prié avec quelqu'un. Et depuis lors, il a été en rémission totale. Donc vraiment, médecins n'y comprennent rien. Voilà. Avant, pendant et après sa maladie, il est resté pasteur de son église. Ça ne va pas être facile. Hein. Il a perdu 30 kilos. Il sortait d'un camp de concentration. Vraiment. Et évidemment, parfois, il y avait des gens qui l'envoyaient s'occuper de l'église. Il a un ancien là-bas qui s'appelle Carlo, qui est un homme plein d'amour, qui a pu relayer les messages qu'il voulait faire passer. Mais à aucun moment, il a abandonné son église. Et pour moi, ça, c'est le signe de quelqu'un qui a eu confiance en la volonté souveraine de Dieu. Alors, je dis qu'il faut rester solide, mais attention, ça ne veut pas dire être un hypocrite. Il faut être honnête pour que les gens autour de nous puissent nous aider. Moi, je trouve que la chose la plus difficile quand on a mal, c'est de demander aux autres de l'aide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça nous rend vulnérables. Hein. Il faut être honnête pour que les gens puissent nous aider. On n'aime pas ça naturellement, mais c'est quand même nécessaire. C'est illustré dans le dernier point que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Il faut se reposer en Dieu, en veillant avec vigilance les uns pour les autres. Si on reprend Éphésiens 6 au verset 18, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. En particulier pour moi, dit Paul, demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. » Paul demande à l'église de prier pour lui, le grand Paul, le grand apôtre, l'homme qui a changé la face de la terre à travers, il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. C'est pas n'importe qui, Paul. Paul demande de la prière. Paul demande de l'aide. Si Paul demande de l'aide, est-ce qu'on peut pas nous aussi demander de l'aide? L'apôtre qui a défini le visage de l'église dit, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin de se tenir les uns des autres. Si l'un souffre, nous souffrons. Si l'autre rit, nous rions. Je sais pas si un jour tu t'es senti dans une église ou à l'église et que tu t'es senti comme si tu dérangeais parce que tu avais des problèmes. Ça, c'est soit une pensée du diable ou c'est soit l'église qui a raté son rôle. J'ai pas peur de le dire. On ne fait pas tout parfaitement à l'église. On n'est pas un musée de saints, on est un hôpital de pécheurs. Ok? Donc moi je tiens à te dire, si l'église à un moment donné elle t'a blessé, pardon. Pardon, elle aurait pas dû. L'église, c'est ce que Dieu a mis pour exprimer son amour sur terre. L'église, c'est ce qui se tient les uns les autres. J'ai un ami proche qui a enterré son papa il y a quelques semaines. Et moi, je me rappelle, j'ai vraiment été touché lorsqu'il a commencé son discours pour son papa. C'était émotionnel, c'était à l'église, les larmes ont commencé à couler. L'émotion, son père était croyant, il est également croyant, donc ça donne une certaine paix. Sentir la présence de Dieu dans ces moments douloureux, mais c'était quand même son papa. Hein. Et je me rappelle quand les larmes ont coulé chez lui, c'est venu tout seul. Deux larmes qui ont coulé chez moi. Ça, c'est ça l'empathie. C'est ce que Jésus y fait quand tu souffres. Hein? Pense à ça. Quand toi tu souffres, Dieu y souffre. C'est, je trouve ça magnifique, moi. C'est parce que c'est un ami, c'est venu tout seul. Donc je pense à Jésus qui est le meilleur de nos amis. Quand toi tu souffres, il souffre également. On est appelé à être tel que Jésus face aux gens autour de nous. Et il faut se le rappeler. Dieu veut qu'on se porte les uns les autres pour que si un jour je suis à terre, tu m'aides à me relever. Et si un jour tu es à terre, je peux t'aider à te relever à mon tour. C'est pas toujours bien appliqué dans nos églises. On préfère parfois enfermer les gens dans les boîtes. C'est facile les boîtes, c'est pratique. Lui il est méchant, lui il est gentil. Voilà. Lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. C'est pas une bonne façon de voir la vie ou le monde. C'est une façon naturelle qu'on a de faire, hein, de mettre les gens dans les boîtes. C'est un mécanisme de défense, hein, pour ceux qui ont étudié un peu la psychologie. C'est une façon de pouvoir intégrer la souffrance face à eux. Mais si on remet ça en question, on dit ok, cette personne, je veux pas juste la réduire à ses erreurs, à ce qu'elle m'a fait, mais je vais la voir dans son entièreté. Alors là, tu vas voir, il va y avoir une différence. Il va avoir plus de place pour toi respirer. Si tu pardonnes aux gens le mal qu'ils t'ont fait, c'est toi qui respires mieux. Parfois les gens me disent, et c'est pas toujours fondé, et parfois c'est fondé, hein, quand on voit des chrétiens qui tombent, c'est quoi notre réponse? Moi je suis toujours un petit peu triste quand je vois les gens qui ont dédié leur vie à Jésus et puis qui se cassent la figure. Un mur en béton face à eux. Et quand j'entends les chrétiens me dire, ah ben voilà, hein, il a récolté les fruits de ses actions, il avait qu'à pas faire ça. C'est ne pas tenir en compte la souveraineté de Dieu. Hein. C'est Dieu qui juge. Si on porte un jugement contre notre frère ou notre sœur, on aura des comptes à rendre un jour devant le roi des rois. C'est ça la crainte de Dieu, c'est de savoir que ce qu'on pense, ce qu'on fait, ça va pas juste comme ça. On a des comptes à rendre, on a des responsabilités. Et si c'est même pas cette peur de la justice de Dieu qui devrait nous motiver, c'est l'amour qu'il a déversé en nous. C'est quoi notre réponse quand les gens sont cassés en face de nous? C'est quoi notre réponse quand les gens trébuchent? Même un petit trébuchement. Hein. Et quand on se tiendra devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est-ce qu'on pourra garder les yeux droits et lui dire « Je me suis efforcé de faire ce que tu as fait avec nous » ou est-ce qu'on devra les baisser? Louis II, à tous ceux-ci, connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est ce que Dieu veut. À tous ceux-ci, connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Notre attitude à avoir en territoire contesté, c'est pas de s'énerver et d'être déstabilisé, mais bien de se reposer en Dieu. On peut gaspiller beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à réagir, mais non. La bonne attitude est de pouvoir passer du temps avec Dieu. La bonne attitude est de pouvoir avoir foi en la volonté souveraine de Dieu et continuer à le servir, continuer à s'accrocher. Et la bonne attitude est de pouvoir veiller les uns sur les autres. Moi, je vais prendre une opportunité pour prier, peut-être une minute ou deux. Si les circonstances pour toi ont été trop fortes et que tu devrais bien remettre ça dans les mains de Dieu, on peut faire ça maintenant ensemble. J'ai pas envie de faire un appel à venir devant. Je veux juste que chacun se mette devant Dieu, là où il est, et puisse se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses à remettre en ordre? Est-ce que j'ai oublié ta volonté souveraine? Est-ce que je dois me rappeler qui tu es? Est-ce que je dois chasser ces pensées qui m'accablent, qui me condamnent, qui ne viennent pas de Dieu, je le rappelle? J'ai tellement vu des choses et expérimenté Dieu dans ma vie, que ne pas croire en lui, c'est impossible. On ne peut pas. J'ai trop vu ce qu'il a fait. J'ai vu des miracles phénoménaux. Et moi, je voudrais bien te demander où est-ce que tu en es par rapport à ta foi. Où est-ce que tu veux aller avec Dieu? Est-ce que tu veux laisser l'opportunité à Dieu d'être Dieu dans ta vie? laisser t'emmener sur les sommets qu'il attend pour toi. Dieu veut t'emmener loin. Et il aime les gens qui ont envie d'aller loin. Les gens qui se sentent pas capables. Prions.